Voilà, merci Monseigneur Joseph, votre éminence, de m'avoir invité. Votre Excellence Marc, chers pères, chers amis, pour faire le lien avec ce que nous venons de dire précédemment sur les questions qui nous préoccupent, je crois pour moi-même que la question principale dans les années à venir et déjà maintenant est la question anthropologique. Certainement, au cours des siècles précédents, il y a eu un cheminement théologique, une affirmation théologique. Mais aujourd'hui, à travers les bouleversements bioéthiques, la théorie du genre et toutes les questions qui sont soulevées, nous voyons bien que l'anthropologie revient au devant de la scène. Donc la question de l'être humain, qu'est-ce que l'être humain, et comment reconsidérer la question de l'être humain aujourd'hui. Parce que, et c'était le souci des pères de l'Église tout au long des siècles, c'est d'être audible, accessible aux contemporains, car un message délivré qui ne peut pas être entendu ne vaut pas. Ainsi, je trouve important de se situer aujourd'hui à la croisée des chemins, et en même temps nous pouvons voir et vérifier qu'il y a une certaine défiance du religieux et simultanément une grande soif spirituelle. Et je crois qu'il est important de se trouver à cette intersection, puisque c'est la réalité du temps, mais c'est aussi répondre à la demande d'aujourd'hui, c'est-à-dire une quête, une soif, dans un désarroi, et quelquefois un désarroi anthropologique ou un désarroi spirituel. Ce qui a marqué le XXe siècle en Occident, c'est l'avènement des sciences humaines, surtout à partir de la deuxième partie, qui a bousculé, à partir du deuxième siècle, qui a bousculé le rapport aux religieux. Donc dans les églises, dans les monastères, se sont introduites les sciences humaines et beaucoup de chrétiens ont eu recours à la psychothérapie qu'ils ont considérée comme une démarche complémentaire à leur chemin spirituel. Ces deux domaines sont-ils conciliables? Et s'ils sont conciliables, de quelle manière? Et c'est ce thème que je voudrais développer avec vous ce soir, autour donc d'un livre que je viens d'écrire qui s'appelle « Si tu veux entrer dans la vie », évidemment qui est une parole de l'Évangile, avec un sous-titre « Thérapie et croissance spirituelle ». Évidemment, ce thème n'est pas au hasard. Depuis 30 ou 40 ans, il y a eu nombre d'ouvrages qui sont sortis sur ce thème, mais qui a été traité plutôt comme « Qu'est-ce qui est possible d'introduire des sciences humaines dans l'Église ?» Or, je voudrais rappeler une chose, c'est que pour la tradition ancienne, thérapie et vie spirituelle n'étaient pas séparées. Je voudrais ici revenir, par exemple, et d'une manière principale certainement, à la tradition des Pères du désert. Mais cette tradition des Pères du désert, elle est justement concomitante à l'avènement de l'édit de Milan, à savoir que au moment où il y a la proclamation officielle du culte chrétien et de la religion chrétienne, ceux qui étaient dans l'héritage de la tradition apostolique, ceux qui avaient vécu cette transmission orale à travers l'Église et à travers certainement des milieux persécutés, ont voulu garder ce qu'ils trouvaient là essentiel, c'est-à-dire la tradition orale et certainement l'esprit de l'Évangile au-delà de la lettre. Et donc il y a des fous qui sont partis au désert, et en 30 ans, il y a eu plus de 10 000 moines entre le Caire et Alexandrie, dans les Kélia, et nous avons jusqu'à aujourd'hui ce témoignage des pères du désert qui pour nous est fiable et qui est à l'origine de ce qu'on appelle la tradition philokalique. Donc, pour ces pères du désert, dont l'héritage de la tradition de l'Évangile et de tout ce développement premier de l'Église qui était à l'écart des influences du monde et en tout cas des philosophies et des religions diverses, puisqu'ils s'étaient préservés et préservés parce qu'ils étaient aussi persécutés et mis à l'écart, nous avons là un essentiel auquel nous pouvons nous référer. Or, cette tradition philokalique ne porte pas son nom par hasard. Philokali veut dire « amour de la beauté ». Pour ses pères, l'essentiel était la quête de cette beauté originelle, dans l'affirmation que dans chaque être humain, il y a une beauté, mais il y a aussi toutes les radiations des qualités divines d'une manière potentielle. Et donc, cette quête de l'originel l'ont assimilée à la quête de l'image de Dieu. Car nous pouvons souligner ici que dans la Bible, la première chose qu'il soit dite sur l'être humain, c'est que le Adam est créé à l'image de Dieu. C'est cela le fondement. Le fondement, ici, il est d'abord céleste avant d'être terrestre. Certainement, il y a eu des critiques sur le livre de la Genèse, sur les deux premiers chapitres, et on peut entendre ici et là que le deuxième chapitre aurait été écrit avant le premier chapitre, mais je crois personnellement à la cohérence biblique, et cette cohérence, eh bien, montre et met en évidence qu'il y a au fond de chaque être humain une lumière originelle qui veut dire que ce n'est pas antécédent, mais dans la profondeur. Ainsi, comme le récapitule l'apôtre Jean dans son prologue, le Christ éclaire tout homme venant dans ce monde. Souligner cela, ça signifie que nous pouvons porter une espérance dans l'humain et dans l'humanité, quel que soit ce qui se passe. Et là, je raccorde avec notre échange précédent, car je ne crois pas que la vague subversive actuelle puisse annuler l'image de Dieu dans l'être humain, et je crois profondément à cette dynamique qui est inscrite en nous. Pour les pères du désert, il s'agit avant tout de prendre soin de ce qui est notre perle précieuse. Et là, je rejoins les évangiles, car les évangiles par les paraboles, et le Christ donc par les paraboles, nous parle de cette perle précieuse en disant que si quelqu'un découvre une grande perle, une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Et donc, peut-être la perle que nous avons en nous, c'est cette dimension originelle et cette dimension de l'image de Dieu. Cette dimension est inscrite dans notre nature. Elle est le dynamisme même de la nature. Nous voyons dans la dynamique naturelle le fait du renouvellement permanent, d'un printemps permanent. Et ce printemps qui s'exprime dans la nature, il s'exprime aussi en l'être humain. Ça veut dire que quelles que soient les persécutions des siècles précédents, eh bien, le message est venu jusqu'à nous et a surmonté ainsi toutes les persécutions et tout ce qui a voulu annuler cette perle précieuse et ce qui est inscrit dans notre profondeur. Donc, se situer dans un rapport anthropologique, c'est revenir au texte biblique. Ce texte-là n'est pas simplement le fruit d'un écrit humain, mais il est un texte inspiré. Et comme le dit l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, ça veut dire que cette parole biblique nous parle de notre profondeur. Et donc, ici, nous ne sommes pas sur un récit historique, mais je crois profondément sur un récit métahistorique. C'est très difficile, c'est très facile, pardon, de le démontrer. Il suffit de regarder, par exemple, dans les deux premiers chapitres, comment la lumière apparaît au jour 1 ou au jour 1er, et que le soleil n'arrive qu'au jour 4, ou quatrième, ce qui veut dire que la lumière qui est présente là n'est pas la lumière du soleil, et qu'ensuite Adam connut Ève, ils ont eu Caïn et Abel, Caïn a tué Abel, et puis encore engendre Seth, et puis finalement on peut se demander avec qui Caïn autant que Seth ont eu des enfants. Donc on voit bien que la réalité historique ici ne tient pas. Par contre, si on se situe d'un point de vue spirituel, il y a ici une précision anthropologique extraordinaire qui vaut aujourd'hui et qu'on a besoin de manifester. Car je crois qu'il y a d'abord une diversité anthropologique aujourd'hui, je le vois même dans les milieux chrétiens. J'ai pu constater au travers des colloques les différences anthropologiques entre les confessions chrétiennes. Ne parlons pas de l'interreligion, et encore pire du monde athée qui est sans anthropologie. Et donc, ce qui est dit ici dans le texte, dans la parole, c'est que Adam, c'est-à-dire chaque être humain, est un être en devenir. Il n'est pas créé parfait, dit saint Irénée de Lyon, qui est disciple direct de saint Polycarpe de Smyrne, disciple lui-même de saint Jean l'Évangéliste. Donc nous avons une lignée ici directe. Et saint Irénée nous dit que l'être humain est en devenir, il était un enfant appelé à grandir, et il est incomplet, appelé à devenir en plénitude. Et donc c'est cela le programme pour chaque être humain. C'est-à-dire nous avons à devenir consciemment ce que nous sommes potentiellement, à devenir en acte ce que nous sommes du point de vue de l'image. Et saint Irénée nous dit, à la suite de l'apôtre Paul, en faisant référence ici au seul verset qui nous soit donné dans le Nouveau Testament, le Deuxième Testament sur l'anthropologie, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, pneuma, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon saint Irénée de Lyon, cette parole clairement définit l'homme parfait et spirituel. Car, dit-il, la chair modelée à elle seule n'est pas l'homme achevé, elle n'est que la chair de l'homme, donc une dimension de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme, elle n'est que l'âme de l'homme, donc une dimension de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, non celui d'homme. C'est l'union dans la communion de ces trois réalités qui constitue l'homme achevé. Ainsi, l'homme parfait est celui qui participe pleinement à l'Esprit Saint. Et c'est bien là la vocation de chaque être humain, c'est de devenir participant de l'Esprit Saint. Le grand starets Séraphin de Sarov a bien dit, le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc, se situer ici dans une dynamique de croissance qui est exprimée pleinement aussi dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 1, verset 26, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, capable de le ressembler. Et les pères de l'Église, pas tous, mais la plupart, ont bien distingué l'image comme potentielle et, je dirais, en germe en nous, et la dimension de la ressemblance qui est l'actualisation consciente de l'image. Mais ce progrès spirituel ne peut être fait que sous l'action de l'Esprit-Saint, mais pas que. Pas que, il y a aussi nécessité de la participation de la liberté humaine, et certainement de la disposition du cœur. C'est là où se trouve l'articulation, je pense, entre la dimension spirituelle et la dimension, je dirais, psychologique. C'est-à-dire entre la dimension divine et l'action divine dans l'être humain, stimulée à travers l'image de Dieu dans l'être humain, et d'autre part la dimension de la liberté humaine, car l'avènement de l'éveil spirituel de l'être humain et de sa croissance spirituelle est divino-humain. Ce n'est pas que Dieu, c'est aussi l'homme, ce n'est pas que l'homme, c'est aussi Dieu. Et ce qui exprime cela dans les évangiles, c'est à travers plusieurs paraboles. Une parabole est celle du semeur, de la semence et des terrains. Dans cette parabole, il est bien dit que du grain, de la semence est semée d'une part sur le chemin, dans les endroits pierreux, puis dans la terre où il y a des épines ou des mauvaises herbes, puis dans des différents terrains, et l'un produit 30, l'autre produit 60, l'autre produit 100. C'est toujours la même qualité de semence. Or, la fécondité sera liée à la qualité des terrains. Le Christ fait lui-même l'exégèse de cette parabole en disant « la semence, c'est la parole » et les terrains sont les différentes dispositions du cœur humain. Ainsi, comme il est dit aussi dans les évangiles, Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les impies. Ça veut dire que le soleil de la grâce et le soleil divin brillent sans cesse et se répandent sur tous, sans exception de personne. Mais tous ne reçoivent pas la grâce. Et donc, les pères vont insister sur la dimension de la purification du cœur naturellement, car il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés, ou il fait nuit en plein jour pour celui qui a les volets fermés dans sa chambre. Ainsi, la grande question, c'est comment se rendre accessible à la grâce, sachant que la grâce est répandue sur tous. Ce qui met l'accent sur la dimension de la purification du cœur. Et la dimension de la purification du cœur est même première dans tous les écrits philocaliques, puisque ce qui est mis en avant, c'est avant tout la praxis. Praxis qui veut dire pratique. Pratique qui ici est liée certainement à la pratique des commandements, mais qui se présente comme une véritable psychanalyse, c'est-à-dire une analyse des mouvements de l'âme et du corps, des pulsions, des passions, des pensées qui agitent l'être humain et qui sont à la base des comportements plus ou moins aberrants. Ainsi, c'est une pratique ascétique dont le but est de métamorphoser l'énergie vitale dévoyée et bloquée dans les passions idolâtres. Et de cette purification peuvent naître les vertus qui sont autant d'acquisitions humaines des qualités divines dont l'amour fait la synthèse. Ce qui veut dire ici que pour qu'éclore en nous la santé spirituelle, mais aussi la santé du corps et la santé de la psyché, il y a nécessité d'une purification. Et c'est pour cela que dans l'Église, il y a insistance sur cette dynamique de purification, certainement par l'ascèse, par la confession, par la préparation à la participation eucharistique, et certainement aussi et surtout par la prière. Et donc, comment rendre le cœur accessible à la grâce et fortifié ici par cette grâce, pouvoir tenir debout dans le monde. Saint Maxime le Confesseur souligne une chose. Il dit « Le chemin de purification de l'âme par Dieu », ce qui veut dire qu'il y a d'une part à l'être humain de se disposer, mais que l'acteur principal est Dieu lui-même, suppose que celle-ci, l'âme, se tourne d'abord vers Dieu. C'est la conversion, la métanoïa. Mais il insiste sur une chose que je trouve essentielle. Il dit « La vertu de l'âme ne consiste pas alors dans sa conversion, mais dans ce qu'elle obtient par sa conversion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de s'ouvrir sur un chemin spirituel et d'entrer dans la dynamique baptismale, il s'agit ensuite que cette dynamique porte des fruits, sinon, finalement, eh bien, elle rend le baptême sans efficacité et sans fruit. Cette dynamique de purification pour les pères, elle est là pour la purification du cœur. La purification du cœur, c'est la purification du regard pour entrer dans une deuxième phase qui est la théoria. Théoria, c'est contemplation de la gloire de Dieu cachée dans les êtres et les choses. C'est-à-dire entrant dans une autre perception de la réalité. C'est-à-dire, c'est ça qui est souligné aussi dans les évangiles, il y a des aveugles qui sont assis au bord du chemin. Ces aveugles assis au bord du chemin signifient que quand on est aveugle, on a perdu le chemin, on ne sait plus marcher. Et donc, il s'agit de retrouver la vue. Et retrouver la vue, ce n'est pas uniquement ici retrouver la vue extérieure, c'est retrouver la vue intérieure. Il y a une certaine perception de la réalité qui peut nous enfermer dans l'immédiateté, et Dieu sait si la réalité aujourd'hui nous conduit à cet enfermement, notamment à travers tous les médias et à travers aussi tous les écrans qui nous sont proposés. Il paraît aujourd'hui que des enfants passent 3 à 4 heures devant les écrans par jour, ce qui paraît absolument dramatique, car l'écran fait écran. C'est-à-dire, en même temps, il révèle, mais il fait écran. Et il est possible que ces écrans, nous les portions en nous, et ce qui est proposé sur Internet et ailleurs, eh bien, peut-être est le fruit aussi d'une vision très limitée, et voire même d'une cécité. Et donc, l'importance d'ouverture du regard, d'ouverture de conscience pour resituer les événements dans leur réalité profonde. Mais pour cela, pour cette ouverture du regard, il s'agit de purifier les blessures. Certainement, chez les pères du désert, il y avait cette quête de l'originel, mais en même temps, cette quête se conjuguait avec la nécessité de désencombrer le cœur ou de désensabler la source. Et donc, une considération ici de toutes les concrétions de la psyché qui empêchent d'avoir accès à la source, donc à l'originel. Et nous trouvons là des points intéressants. Je vais en décliner quelques-uns. Premièrement, quand quelqu'un arrivait au désert, il ne pouvait rester au désert que s'il se confiait à un ancien. La dynamique relationnelle était au cœur de l'exigence du désert. Personne ne pouvait être au désert qu'il n'ait une relation avec un ancien. Deuxièmement, il devait auprès de cet ancien dévoiler toutes ses pensées, toutes les pensées. Pas simplement confesser ce qu'il voulait bien confesser, dévoiler toutes les pensées. Non pour être jugé par l'ancien, mais pour être guidé par l'ancien vers un discernement des esprits. Entre parenthèses, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de discerner. Et ce discernement se faisait à travers le fait de regarder de quel ordre est une pensée. Est-ce qu'elle est de l'ordre existentiel? Est-ce qu'elle est une pensée uniquement des réalités du quotidien? Ou bien est-ce que cette pensée est inspirée par l'Esprit-Saint? Ou bien est-ce que cette pensée, elle est le fruit de conditionnement? Ou bien est-ce que cette pensée est inspirée du diabolos, c'est-à-dire de celui qui vient nous diviser intérieurement? Et cette éducation dans le discernement des esprits était le point clé de la thérapie des pères du désert. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des psychologues américains qui reprennent cette approche, et même cette approche est en train de se développer d'une manière particulière, dans la considération que tout l'être humain, dans sa nature, est tourné vers la réalisation de soi. Jung a dit cela déjà, mais d'autres psychologues, tels Carl Rogers, qui est connu dans les milieux, évidemment, de psychothérapie et des sciences humaines, nous dit la chose suivante. Il dit « Il y a dans l'être humain une indéfectible tendance directionnelle vers la réalisation de soi, vers l'accomplissement et la plénitude. » Ça veut dire qu'il y a au fond une aspiration profonde dans chaque être humain et que cette aspiration doit être encouragée, stimulée pour que l'être humain marche vers son plein accomplissement. Et ce plein accomplissement est déjà inscrit dans la nature. J'ai bien regardé tout ce que nous dit Jean-Claude Larcher à propos de l'anthropologie, et je vois bien qu'il dit d'une manière claire et incisive, en tout cas dans ses derniers ouvrages, le fait que au plus profond de la nature, il y a le logos de la nature. Et Saint Maxime le Confesseur, dont il est un spécialiste, nous dit que si à l'origine de la nature il y a le Logos et que le Logos est inscrit en Dieu de toute éternité, il ne pourra pas nous conduire ailleurs que dans le Logos, c'est-à-dire dans l'Oméga, c'est-à-dire dans le Christ. Et donc, si nous sommes ici dans cette dynamique, ça signifie que il n'y a pas d'opposition entre l'approche thérapeutique et l'approche spirituelle, mais que si quelqu'un s'avance dans la purification du cœur, qu'il désencombre les concrétions de la psyché, alors il découvre de l'intérieur cette lumière qui est inscrite en lui, et cette lumière irradie de la profondeur, et la seule profondeur qui est nommée par la Bible, la tradition judéo-chrétienne, c'est l'image de Dieu. Donc c'est à cette lumière-là qu'il s'agit ici d'entrer dans une approche thérapeutique, dans l'héritage de ses pères, et de mettre en avant ici, d'abord, la nécessité de prendre soin de la vie. Car une chose est que nous soyons advenus à l'existence, mais peut-être nous n'y sommes pour rien. Autre chose est de dire oui à la vie et de s'inscrire d'une manière libre, dans le désir de vivre, dans un oui à la vie. Est-ce que ici il n'y a pas là, ici il n'y a pas le renouvellement du baptême, c'est-à-dire dans le rite baptismal, avant la plongée dans les eaux, on demande aux catéchumènes, est-ce que tu renonces à Satan et tu te joins au Christ? Et on demande trois fois. Donc la question ici de oui au Christ et non à Satan, que je pourrais traduire ici par un oui à la vie et un non à la mort. Non pas comme quelque chose qu'il s'agit d'affirmer une fois pour toutes, mais que nous devons affirmer à chaque instant comme actualisation de l'engagement baptismal. Et c'est à partir de là, et certainement à partir aussi de cette prise en considération de la vie qui est en nous, car si nous allons plus ou moins bien, la vie va bien en nous. Et peut-être nous faisons obstacle à la vie. Et donc la thérapie, elle propose de regarder ce qui fait obstacle, ce qui en nous fait barrière par rapport à ce jaillissement de la vie, mais aussi au jaillissement de l'être, car les deux sont liés. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse faire l'impasse de la question thérapeutique, je ne crois pas qu'on puisse faire l'impasse de sa propre histoire, Et je crois que, d'autre côté, il ne s'agit pas de revisiter simplement sa propre histoire, comme il a été proposé pendant des années en psychothérapie. Je crois qu'il s'agit de partir d'aujourd'hui, de ce qui m'empêche d'accéder à la pleine relation avec moi-même, pleine relation avec Dieu, pleine relation avec l'autre. Et peut-être que ce regard va nous renvoyer à des événements passés ou des blessures du passé et la nécessité de pouvoir nommer ces blessures pour s'en libérer. Deux choses ici. Premièrement, dans le chapitre 2 de la Genèse, Dieu invite l'homme à nommer tous les rayottes. On traduit en général par animaux, pourquoi pas, mais rayot, ça vient du terme hébraïque ray, qui veut dire la vie. Les rayot, ce sont les énergies de vie. Donc, nommer les blessures, c'est certainement nommer ce qui fait obstacle, mais derrière ces obstacles, il y a des énergies de vie. Ce qui souligne une chose très importante ici, c'est que la vie qui ne s'exprime pas en moi, ou que je ne laisse pas exprimer en moi, se retourne en pulsion de mort. Il n'y a pas en nous la mort et la vie d'inscrites, il y a en nous, selon l'anthropologie chrétienne, la vie, car nous sommes le fruit de la création divine, et Dieu a disposé en nous une énergie de vie extraordinaire qui nous permet d'assumer les épreuves, d'assumer les obstacles et de traverser jusqu'à un plein accomplissement. Et ces mêmes énergies, si elles ne sont pas regardées, si elles ne sont pas nommées, si elles ne sont pas prises en considération, ces mêmes énergies agissent en nous, malgré nous, et nous font faire ce que nous ne voulions pas faire. Je retrouve là l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ainsi, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » On peut s'interroger sur ce que signifie le péché ici. Est-ce que le péché n'est pas, comme le disait saint Isaac le Syrien, de fait de résister à la vie? Et donc les déviations, puisque le péché veut dire déviation, veut dire mal visé, rata en hébreu, amartia en grec, est-ce que la problématique profonde ne serait pas de dévier les énergies de vie incidentes en nous qui proviennent d'une profondeur originelle qui est liée à la présence divine en nous? Si les choses sont telles, alors il est clair qu'il y a une exigence. Cette exigence, c'est de poser un regard sur ces forces de vie qui sont en nous, pour les nommer, nommer les rayottes, pour les assumer, les étingrer, les intégrer et les associer à la dynamique d'ascension spirituelle. C'est-à-dire les mêmes énergies qui nous empêchent de croître, ces mêmes énergies nommées et assumées peuvent être associées à notre croissance spirituelle. Deuxième point, dans l'évangile de Jean au chapitre 9, le Christ dit aux apôtres qui lui présentent un aveugle de naissance. Ils disent, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Du point de vue psychologique, on pourrait ici considérer qu'il y a une interrogation sur le transgénérationnel. Et le Christ ne va pas nier cette dimension transgénérationnelle. Mais il va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Donc il ne va pas traiter la problématique de la cécité de cet enfant du point de vue causal dans une cause qui serait dans le passé, mais il va bouleverser la perspective. Et il va faire passer du pourquoi, qui renvoie à une cause antécédente, au pourquoi. En disant que c'est ce que cet enfant fera de sa cécité plus que la problématique de la cécité. Pour l'éclairer d'une autre manière, si par exemple, après consultation, il se révèle un diagnostic du cancer, si par exemple j'ai un accident de voiture, si je suis confronté à une épreuve, aller regarder les causes du cancer, de l'accident et de l'épreuve est une chose, mais peut-être ne nous amènera pas très loin. Et donc ce que nous dit le Christ ici, c'est que le plus important, ce n'est pas ce qui a conduit à aujourd'hui, mais comment l'accident, le diagnostic, l'épreuve peut être un tremblement de terre, peut être un choc, peut être un réveil salutaire et déclencher un chemin intérieur que je n'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu ce diagnostic ou cet accident ou cette épreuve. Et donc, c'est comme si la vie venait nous solliciter pour nous réveiller et pour enfin s'ouvrir à cet originel et à cette profondeur. C'est là où se trouve pour moi une articulation entre thérapie et croissance spirituelle. Comment la maladie, l'épreuve, les difficultés peuvent être autant d'occasions d'ouverture intérieure, de croissance spirituelle, et finalement nous inviter à cheminer et à prendre en considération ce qui est inscrit en moi, ces forces de vie que je n'accueille pas, que je ne laisse pas vivre en moi et qui finalement se retournent en moi contre moi. Pour les pères du désert, il n'y a pas d'opposition entre le rapport thérapeutique et le rapport spirituel, mais complémentarité. Il n'y a pas d'accomplissement spirituel sans thérapie. Ça veut dire sans purification de la psyché et sans prise en compte de ce qui est inscrit en nous. Car ce que nous n'osons pas ou nous ne voulons pas regarder à l'intérieur se retourne contre nous. Ceci, nous pouvons le voir du point de vue spirituel dans ce monde et dans la réalité qui viendra après, mais nous pouvons aussi, quand on s'intéresse aux fins de vie, par exemple aux soins palliatifs, mais aussi aux maisons de retraite, de voir que s'accumule à la fin de l'existence tout ce qu'on n'a pas voulu regarder, mais il y a ici une grande difficulté, c'est que la plupart du temps, nous n'avons plus les forces ni physiques ni psychiques pour assumer ce qui à ce moment-là émerge à la faveur d'un affaiblissement physique. Et donc, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le chemin, il n'est jamais trop tôt pour commencer un chemin spirituel, mais celui-ci ne peut pas être uniquement un chemin de prière, il s'agit aussi qu'il soit un chemin thérapeutique. Le Christ n'a-t-il pas dit « veillez et priez » ? Il n'a jamais dit uniquement « prier », mais « veillez et priez ». Et la veille, ici, nous renvoie au fait de cette attention intérieure, de cette vigilance sur ce qui opère en nous, malgré nous, et nous font faire ce que nous ne voulons pas faire. Ce qui est la marque absolument de ce qu'on appelle le péché. Et d'autre part, il s'agit de veiller aussi sur, comme sur le fait de notre façon de gérer les événements. Car nous pouvons dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, car les événements surgissent. Et certains prétendent que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, mais même si nous considérons que ce qui nous arrive, voilà, comme le disait Épictète, il y a à différencier entre ce qui appartient à notre responsabilité et ce qui n'appartient pas à notre responsabilité. En tout état de fait, les événements nous débordent, et quel impact nous avons sur les événements ? Nous ne savons pas et nous sommes certainement démunis par rapport à cela. Mais si nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, nous sommes toujours responsables de l'attitude que nous avons face à ce qui nous arrive. De ce point de vue, on peut se demander si finalement ce qui sera la confrontation ultime sera la confrontation par rapport à notre histoire, c'est-à-dire ce que nous aurons traversé comme épreuve et comme difficulté, ou bien est-ce que nous ne serons pas interrogés sur la manière dont nous avons géré les épreuves et les difficultés, et finalement interrogés sur notre liberté et sur l'usage de notre liberté. Il y a un proverbe sumérien qui dit que quand nous arriverons de l'autre côté, il nous sera demandé « Qu'as-tu fait de ma grâce ?» À savoir, là où l'épreuve abonde, dit l'apôtre Paul, la grâce surabonde. Nous avons certainement, la plupart du temps, le regard sur l'épreuve ou sur les difficultés, peut-être moins sur la grâce. Mais ce qui est l'essentiel ici, c'est la gestion de la grâce. Et donc, nommer, reconnaître en soi ne suffit pas. Il s'agit aussi d'entrer dans un processus de désidentification. Car je ne suis pas cela. Il y a un très beau passage de ce grand spirituel, disciple de ce géant spirituel qui est Saint Siméon, nouveau théologien, et qui est Saint Nicétas Tétatos, 11e siècle, qui pose bien ici l'articulation. Il dit « Ce que je suis n'est pas absolument ce qui est en moi. Ce qui est en moi n'est pas ce qui est autour de moi. Ce qui est autour de moi n'est pas ce qui est en dehors de moi. Je suis moi-même créé à l'image de Dieu. » Il dit « Ce que je suis n'est pas ce qui est en moi. Ce qui est en moi, ce sont mes états intérieurs, ce sont les états d'âme. Mais je ne suis pas cet état-là. Ça veut dire la colère est en moi, le ressentiment est en moi, ou bien la tristesse est en moi, mais je ne suis pas cela. M'identifier, c'est me résumer totalement à cet état d'âme ou à cette émotion. Et donc, si je ne suis pas cela, ça veut dire que je peux nommer et me différencier de cela, poser un regard, pour que je ne sois plus sous l'emprise de, mais que j'acquière l'autorité sur. Je ne suis plus sous l'emprise de, mais j'acquière l'autorité sur. Vous sentez ici le basculement. Au lieu d'être sous l'emprise de ce qui surgit de l'inconscient, ou en tout cas du non encore conscient, il s'agit d'acquérir l'autorité sur. Je dis autorité sur car je ne dirai pas maîtrise, parce que la maîtrise, c'est le contrôle. Et vous savez, le contrôle, ça va jusqu'au moment où on est débordé. Alors que l'autorité sûre, cela dit la manière dont le Christ a traduit le dominer. Parce que vous savez, dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu crée l'homme à son image il le crée, mâle et femelle il les crée, afin qu'il domine. Nous, ce que nous avons compris par dominer, c'était asservir, c'était mettre, je dirais, la main dessus, c'est-à-dire avoir le pouvoir sur. Mais le Christ l'a traduit d'une autre manière. Son dominé, il l'a traduit par l'acquisition de l'autorité sur les vents, sur les flots, sur les mouvements cosmiques, sur les maladies, sur les démons, sur la mort même. Et il nous invite à sa suite, c'est-à-dire à acquérir cette même autorité. Mais avant de l'acquérir sur les dimensions cosmiques à l'extérieur, il s'agit de l'acquérir sur les événements intérieurs. Et donc, c'est ça, les identifications que souligne Saint Nicétas Tétatos. Ainsi, ce que je suis n'est pas absolument ce qui est en moi. Absolument signifie ici que je ne suis pas non plus étranger à mes émotions ou à mes mouvements intérieurs, mais que j'ai à acquérir l'autorité sur, donc à les nommer, les reconnaître pour les intégrer. Puis ensuite, ce qui est en moi n'est pas ce qui est autour de moi. Ce qui est autour de moi, ce sont les rôles et les fonctions. Je ne suis pas que la fonction. Sinon, quand je vais arriver à la retraite, alors je peux déprimer parce que je ne suis plus cadre, je ne suis plus médecin, ou je ne suis plus le personnage social auquel je m'étais identifié. Et puis, ce qui est extérieur à moi, ce sont les conditionnements. Donc je ne suis pas les conditionnements. Peut-être ça peut nous renvoyer à la discussion que nous avions tout à l'heure. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et peut-être ici, nous avons à témoigner de cette lumière que nous portons, revivifiée par la prière et la vie sacramentelle, pour être dans ce monde comme un témoignage, sans être du tout atteint par le monde. Et je crois que c'est ça la vocation chrétienne. Et donc ceci suppose un travail intérieur, sinon on peut se laisser déséquilibrer par finalement ce qui est, je dirais, ce qui se présente comme subversif, mais qui cache mal en fait sa non-consistance. Parce que je crois ici, pour faire une petite diversion sur le sujet d'auparavant, je ne crois pas qu'il s'agit de se laisser intimider par ce qui se passe aujourd'hui par rapport à toute la bioéthique et par rapport à la théorie du genre. Je crois que, en fait, il y a là, je dirais, un nihilisme qui s'affirme, mais ce nihilisme est vide par essence. Et donc, je crois que, en fait, il s'agit de se mettre debout, comme il a été affirmé tout à l'heure, mais dans la conviction que l'important, c'est ce qui se vit en nous du point de vue du Christ et du point de vue de cette purification, et le reste sera donné par sa croix. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aurore. Peut-être nous sommes à l'aube de cette aurore. Et que cela nous renvoie à ce principe ici de désidentification, être dans ce monde sans être de ce monde, et par là, savoir que l'histoire est orientée, notre histoire personnelle est orientée, mais l'histoire de la société est orientée, l'histoire du monde est orientée, et peut-être il y a à vivre une confiance. Tout cela, et je pense pas ma conclusion maintenant, parce que je crois que je suis arrivé à l'heure, voilà, eh bien, nous amène vers cette quête de l'unité intérieure, car nous ne sommes pas dans l'unité, mais nous partons de la division intérieure qui a été nommée pour le fait que je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et ce chemin vers l'unité passe par toute la limite du pardon. Et la règle de pardon est un don fondamental, qui est le don de l'unité. La question, c'est comment participer de ce don de l'unité, sinon en revenant à l'originel en nous, qui est unité. Et donc, c'est parce que nous pouvons descendre dans le cœur profond, là où il y a l'unité avant la division, dans l'originel, qu'aimait à rappeler les Pères des déserts, que nous pouvons entrer dans cette dynamique de réconciliation. Réconciliation avec nous-mêmes, réconciliation avec Dieu en nous, pour une réconciliation avec l'autre, s'il est possible. Ainsi, processus d'intégration, processus de transformation, c'est bien cela que propose l'articulation thérapie et croissance spirituelle, et c'est bien ici l'essentiel du chemin qui est proposé dans une dynamique de croissance, puisque toute la Bible nous inscrit dans un devenir, l'être humain est dans un devenir, et que ce devenir est dans l'acquisition du Saint-Esprit. Merci de votre écoute.
Merci Père Philippe. Notre soirée est transmise en direct sur Apostolia TV, Web TV. Maintenant, nous aurons quelques 10 minutes de questions, si vous avez des interventions, des questions. J'ai vu là le diacre Christian qui voulait à tout prix dire quelque chose ce soir. Non, Père Christian, tu voulais pas dire? Mais alors, si tu veux nous dire quelque chose, il faut nous dire. Il faut être courageux parce qu'après, nous aurons un petit dîner où on va manger quelque chose ensemble avant de partir.
Je voudrais remercier déjà le Père. Je pense que je suis... j'ai l'assentiment, si vous voulez, de...
De l'autre diacre, de l'autre, il est aussi diacre.
Je voudrais vous remercier pour les choses que vous avez dites d'une manière tellement révélatrice pour nous, parce que des choses dont on a l'impression de connaître, vous avez trouvé des mots pour surprendre certaines nuances importantes pour notre croissance, justement. Donc je voulais simplement réagir sur le fait que vous avez évoqué au début de votre intervention et à la fin aussi, cet intérêt pour les sciences humaines venant de la part de théologiens de nos jours. Ce dialogue a commencé tellement tard, parce que je pense que si le dialogue avec les sciences exactes, en ce qui est, date quand même depuis un certain temps, ce dialogue avec les sciences humaines a commencé beaucoup plus tard. Je voulais signaler le fait que c'est vraiment une nécessité, parce que les sciences humaines occupent presque la place de la théologie autrefois dans nos sociétés. On nous décrit la réalité avec les mots des sciences humaines. On a à la télé toujours des sociologues, des psychologues, donc des représentants des sciences humaines. C'est eux qui donnent une version de la réalité. Donc ce dialogue va être entamé. Je veux signaler surtout le fait que ce dialogue, même s'il est tardif, il démarre tardivement, il existe depuis au moins 50 ans, je pense.
30-40 ans.
Voilà, par exemple, pour l'espace romain, je pense que nous devons évoquer la figure du père Galerio, qui connaissait assez bien les auteurs, comme Jung, ou comme, en partant de Freud, toute la psychanalyse, mais pas uniquement la psychanalyse, tout ce qui est psychologie cognitive, donc tout ça. Et après, nous avons même de nos jours une thèse qui a été faite par la professeure de théologie morale de l'Université d'Athènes, c'est ça que je voulais signaler aussi. Le professeur de théologie morale de la faculté de théologie d'Athènes est l'auteur d'une thèse en français, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de voir. Malheureusement, je ne me rappelle plus son nom. C'est une thèse qui parle justement de la psychanalyse d'enfants de vue théologique orthodoxe. Donc ce dialogue existe, ce dialogue est encouragé. Je connais quelqu'un qui a un doctorat en théologie, en sciences religieuses avec le pratique aux études, et qui est maintenant stagiaire à l'Hôtel Dieu, à l'hôpital Hôtel Dieu, stagiaire justement dans les ateliers de psychanalyse. Donc voilà, l'intérêt existe, le dialogue est nécessaire, et on vous remercie pour votre approche.
Merci.
S'il y a d'autres, Père Noël.
Est-ce que tu pourrais nous redonner les références des deux premiers textes? Il y avait Irénée, Paul, tu peux redonner les deux
références? Je peux donner les références. Donc, pour Irénée de Lyon, voilà, c'est Contre les hérésies, chapitre 5 et verset 6. C'est pas exactement comme ça, c'est cinquième livre plutôt, sixième chapitre, le début du sixième chapitre.
Voilà. Et après, ça dit 1 Thessaloniciens
5, 23.